Le débrief éco du dimanche soir en partenariat comme toujours avec le Cercle des économistes. Bonsoir Emmanuel Cuny.
Bonsoir Catherine, bonsoir à tous.
Et face à face ce soir, Jean-Hervé Lorenzi qui est président du Cercle des économistes. Bonsoir.
Bonsoir.
Et face à vous, Emmanuel Gessua. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur général de l'Institut de conjoncture Rexecode. Alors avant de parler des mesures qu'Emmanuel Macron devrait annoncer dans quelques jours sur la réforme des retraites, Emmanuel, parlons de la croissance économique de la France. Qui l'eût cru ? On fait mieux que l'Allemagne ?
Oui, alors pour la première fois, effectivement, depuis 13 ans, la croissance française devrait dépasser cette année celle de son voisin d'outre-Rhin. Le gouvernement allemand a nettement abaissé mercredi sa prévision de croissance pour cette année à 0,5%. Alors c'est loin du 1% encore attendu, initialement attendu. La phase de faiblesse que traverse actuellement l'économie allemande doit servir de signal d'alarme. C'est ce qu'a déclaré le ministre allemand Peter Altmaier. Alors 1% de croissance en Allemagne contre 1,3% pour la France. Sans se réjouir du malheur des autres, on peut se demander si cette situation positive pour la France va durer longtemps et puis surtout à quelles conditions.
Bon, on va en débattre, hein. Bien sûr. Je vais commencer par vous, Emmanuel Gessua. Est-ce que la France va mieux ou est-ce l'Allemagne qui tourne au ralenti ?
Alors, il y a clairement un ralentissement en Allemagne qui est lié d'abord à des facteurs a priori conjoncturels. Un problème dans l'automobile, le passage à des nouvelles normes environnementales en septembre 2018 qui n'a pas été bien anticipé par les constructeurs allemands.
L'histoire du diesel.
Et donc, qui s'est traduit du coup par un coup d'arrêt. Après, d'autres facteurs liés à la demande, notamment la demande chinoise, qui ralentit de manière importante, qui demande plutôt de l'électrique, les Américains qui demandent plutôt des pick-up, et donc peut-être des constructeurs allemands qui n'ont pas non plus bien anticipé les changements de consommation des ménages. Toute la question, c'est est-ce que ce trou d'air va être durable ou est-ce qu'il va y avoir un rebond ? Les dernières enquêtes sont encore mauvaises, mais pour l'instant, l'Allemagne reste quand même une formidable machine industrielle, exportatrice, et nous a taillé des croupières en termes de part de marché depuis 20 ans, qu'on n'a pas du tout rattrapé.
Jean-Hervé Lorenzi, est-ce qu'il faut y voir, on va dire, un rééquilibrage au sein du moteur économique franco-allemand ?
Oui, bien sûr. Alors, première remarque, on a l'impression de tomber notre chaise quand on dit ça. En fait, pendant des décennies, la croissance allemande et la croissance française ont été très proches. Donc, cette idée qu'il y avait un nain et un géant, c'est quand même une vision très de notre caractère dépressif sur notre propre histoire. Deuxième aspect, je suis un peu en complément et peut-être un peu en désaccord avec Emmanuel. Je pense que c'est durable. Non pas la croissance française qui, disons, sera portée dans les années qui viennent par un facteur démographique, c'est majeur, et c'est les jeunes qui font de la productivité, et qu'à un moment déterminé, ça joue, alors que l'Allemagne est un pays vieillissant, dans lequel il n'y a qu'à regarder les taux d'épargne. Hein. Le taux d'épargne est en train d'exploser, ils sont prudents, ils ont peur, enfin c'est des vieux, quoi. C'est un pays de vieux, qui a un modèle industriel qui est quand même très tourné vers des secteurs très traditionnels. L'automobile qu'évoquait Emmanuel, c'est pas un problème fini, ce sera pas fini l'année prochaine. Donc je crois que on peut, avec tristesse, imaginer que si les Allemands ne font rien, il ne se passera rien, donc ils vont
mais
rester.
Ça dépasse le secteur de l'automobile, hein, parce que à entendre
non,
Emmanuel, il y avait vraiment
les machines outils allemandes se vendent peut-être moins aussi à l'international, non ? Les machines outils, enfin, qui sont, on dit généralement. Le fer de lance de l'économie, de l'industrie allemande.
L'économie allemande commence à perdre un peu de part de marché,
Emmanuel
aussi
Gessua.
Parce que ses coûts augmentent. Hein. Les salaires ont accéléré sur les dernières années, leurs salaires directs, mais également les salaires de leur hinterland, c'est-à-dire toute l'Europe de l'Est. Il y a des difficultés de recrutement qui augmentent dans ces pays-là, avec des coûts salariaux qui augmentent. Et donc, la compétitivité coût commence peut-être à s'éroder un peu en Allemagne. Et puis je rejoins Jean-Hervé, effectivement, il y a un facteur démographique déterminant dans la différence France-Allemagne. Il y a un vieillissement en Allemagne avec une diminution de la population en âge de travailler qui va évidemment peser sur les perspectives de croissance allemande à moyen terme.
Alors si la France veut transformer l'essai dans cette situation supérieure, positive, en termes de croissance économique supérieure à l'Allemagne, qu'est-ce qu'il faut faire en France pour tenir la barre ? Ça, on revient toujours aux mesures Macron, finalement.
Non, j'allais dire, il faut écouter le président la semaine prochaine. Et vous allez me prendre pour un faillot absolu, ce que je ne suis pas. Non, je veux dire, les facteurs démographiques sont, comme toujours, les plus importants. Or, nous, on a une chance formidable. On a, on n'a pas une démographie exceptionnelle, mais qui n'a rien à voir avec ce qui se fait dans les autres pays. Rien à voir. Donc il faut utiliser cet atout de manière massive, c'est-à-dire mettre le paquet sur ce qu'est la formation, qu'elle soit initiale, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit permanente, mais par tous les moyens, notre talent et notre force relative qui repose sur cette jeunesse dynamique et talentueuse, il faut arriver à la transformer par un mécanisme et une obsession de la formation et de l'amélioration. Nous sommes un pays qui a formé des milliers d'ingénieurs talentueux. Il se trouve qu'aujourd'hui, nos gammes de produits ne sont pas top.
Il faut monter en gamme, c'est ce que vous voulez dire.
Et puis, problème allemand et français, problème des GAFA, c'est qu'il faut arriver à faire des secteurs qui sont des secteurs modernes.
Alors, Emmanuel Jessuin, en termes de secteurs, justement, à Rexecode, l'institut de conjoncture que vous dirigez, on observe de très près le monde des entreprises. Quels sont les secteurs vraiment porteurs en termes de croissance aujourd'hui?
Le problème de la France, c'est que c'est l'industrie qui a les plus forts gains de productivité, donc qui devrait être le moteur de croissance le plus important. Mais c'est en même temps, la France est le pays, la principale économie de la zone euro qui a la désindustrialisation la plus manifeste. Et donc de là viennent tous nos problèmes depuis 20 ans, et c'est une des raisons aussi, à la fois de la dévitalisation des territoires, de la diminution du pouvoir d'achat, et donc de la crise des gilets jaunes.
Il faut donc réindustrialiser la France.
Le problème, c'est que c'est très compliqué, on ne va pas faire de la chimie lourde, donc il faut arriver à trouver des secteurs d'activité qui sont des secteurs de productivité, de gains de productivité. Et là, on est très très bon dans des domaines de technologie, formation et recherche et développement technologique.
On marque une pause, on va parler des retraites dans un instant.
Le débrief éco avec la Société Marseillaise de Crédit, pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Société Marseillaise de Crédit, une banque du groupe Crédit du Nord. France Info Trafic avec Calibat, 73 000 entreprises pour vos travaux de construction et de rénovation. Retrouvez-nous sur calibat.com.
Adèle Bossard, toujours avec nous. Difficulté dans l'Indre-et-Loire maintenant.
Ah oui, un accident sur l'autoroute A10 en direction de Tours, et l'autoroute a été coupée pendant une demi-heure entre Château-Renaud et Monet pour permettre l'intervention d'un hélicoptère après l'accident. Vous êtes toujours ralenti sur 3 km dans ce secteur. Un accident également dans le nord sur l'A25 à hauteur de Bailleul en direction de Lille. Là, il vous faut une quarantaine de minutes pour faire 10 km. Un accident aussi sur l'A13 au sud de Rouen, direction Paris. Deux des trois voies de circulation sont bloquées et ça génère actuellement plus de 2 km de bouchons. Et puis à l'entrée de Paris, vous êtes ralenti sur les grands axes, notamment sur la 13 depuis la Normandie, avec des bouchons au péage de Mantes-la-Ville. On a actuellement un niveau de bouchon habituel en Ile-de-France pour un dimanche soir, alors que le lundi de Pâques demain est férié.
Adèle Bossard, OPC Circulation de Radio France.
France Info, 17h-20h. Catherine Potier.
Le débrief éco, la suite dans un instant. Et le rappel de l'info, c'est tout de suite 19h50, Thomas Bénèche.
Deux figures du mouvement Gilets jaunes, Jérôme Rodriguez et Priscilla Ludowski, témoignent ce soir leur soutien total aux forces de l'ordre. Hier, place de la République à Paris, certains manifestants ont lancé aux policiers « Suicidez-vous ». Des paroles prononcées alors que les fonctionnaires ont vu depuis le début de l'année 28 de leurs collègues mettre fin à leurs jours. La pollution aux particules fines persiste dans plusieurs secteurs en France. Les alertes déclenchées dans 5 départements de Bretagne, dont l'Ille-et-Vilaine, mais aussi le Nord et le Pas-de-Calais, sont maintenues pour toute la journée de demain. Toujours aucune revendication des attentats survenus ce dimanche au Sri Lanka. On sait que ces attaques ont fait 207 morts au moins, qu'il y a parmi les victimes des Américains, des Britanniques, indiquent leurs pays respectifs. Les cibles étaient des églises, des hôtels. 8 personnes ont été interpellées dans le cadre de l'enquête. En Ukraine, large victoire pour le comédien Volodymyr Zelensky. Les sondages sortis des urnes désignent le comédien comme nouveau président. Il recueille 73% des voix. Je ne vous laisserai jamais tomber, a-t-il dit face à ses soutiens. Zelensky bat le chef d'État sortant Petro Poroshenko. Enfin, en Fed Cup de tennis, Roumanie et France sont à égalité ce soir de partout. Pauline Parmentier a permis aux Bleus de recoller au score. La qualification pour la finale de cette Fed Cup se joue en ce moment dans le double. La France mène pour l'instant dans le premier set 4-3.
France Info. Le débrief éco avec la Société Marseillaise de Crédit, pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires. Société Marseillaise de Crédit, une banque du groupe Crédit du Nord.
Le débrief éco, deuxième partie, avec Emmanuel Cuny, le président du Cercle des économistes Jean-Hervé Lorenzi, et le directeur général de l'Institut de conjoncture Execode, Emmanuel Jessua. Parlons maintenant, Emmanuel, de la réforme des retraites et des mesures qu'Emmanuel Macron devrait annoncer cette semaine.
Oui, nous verrons ce qu'il en est dans les faits. Dans son allocution initiale, annulée, on le sait, en raison de l'incendie de Notre-Dame de Paris, et dont France Info a pu prendre connaissance, eh bien, le chef de l'État prévoit une réindexation sur l'inflation, une réindexation des pensions de retraite inférieures à 2000 euros. Dans le budget 2019, une hausse de 0,3% des pensions était prévue, alors bien loin du niveau de l'inflation estimé à 1,6%. Que penser de cette mesure? Et puis, plus loin, quelles questions pose le vieillissement de la population française? Comment gérer ce qu'on appelle le grand âge? Plus loin que la question comptable des retraites, comment avancer dès aujourd'hui sur la solidarité intergénérationnelle?
Et vous parlez de l'éventuelle réindexation des retraites sur l'inflation. Écoutez ce qu'en pense Philippe Martinez, c'est le secrétaire général de la CGT.
Qu'est-ce qui justifie que des retraités soient augmentés et d'autres moins? On crée encore des inégalités. Enfin, il faut que les règles s'appliquent pour tout le monde. Il faut indexer les retraites sur les augmentations moyennes de salaire, premièrement. Pas sur le coût de la vie, sur les augmentations moyennes de salaire. Et pour tous les retraités, est-ce qu'à 2001 euros, on est favorisé, riche? C'est une question d'égalité de traitement.
Alors voilà ce qu'en pense Philippe Martinez de la CGT. Jean-Hervé Lorenzi, réindexer les retraites sur l'inflation, c'est une bonne ou une mauvaise idée?
C'est une très bonne idée pour les, évidemment, pour les petites retraites. Monsieur Martinez,
donc moins de 2000 euros.
Monsieur Martinez oublie une chose, c'est que il y a une dispersion des revenus chez les retraités qui est absolument énorme, bien plus importante même que dans n'importe quelle couche d'âge. Et entre le retraité qui, en réalité, a une retraite importante et la personne qui est au minimum vieillesse, c'est le jour et la nuit. Alors évidemment, il faut non seulement réindexer, mais il faut arriver à sortir de cette espèce de cauchemar pour des femmes et des hommes qui se retrouvent en fin de vie avec des revenus extrêmement faibles. Et puis, nous dépensons 14% du PIB pour les retraites. C'est-à-dire, ce qu'oublie M. Martinez, c'est que ce qu'on donne aux uns, on le prend aux autres, c'est-à-dire on le prend aux actifs. Et donc, ça m'étonne même qu'il n'ait pas encore fait le lien. Et donc, il faut évidemment, j'allais dire, que les transferts se fassent plutôt à l'intérieur de ces tranches d'âge. Et il est clair qu'une partie des retraités qui ont des retraites très importantes peuvent participer de manière plus significative à l'ensemble de ce problème.
Voilà, sans prendre aux actifs.
Qui est le problème de retraite, mais celui plus général du vieillissement, parce que derrière...
On va y venir.
Oui, puisque derrière, il y a la santé, la dépendance, il y a beaucoup d'autres sujets.
On va y venir. Emmanuel Jessua, d'accord, pas d'accord avec cette indexation, réindexation des retraites sur l'inflation?
Je pense qu'il était inévitable, effectivement, de faire un geste pour les petites retraites. Après, on a, comme l'a rappelé Jean-Hervé, un poids énorme des retraites dans les dépenses publiques. 14 points de PIB, c'est 4 points d'écart avec l'Allemagne, par exemple. Et donc, on en avait fait une analyse avec ses codes des raisons de cet écart. Il y a une partie, c'est parce que les pensions sont quand même un peu plus élevées en France. Et l'autre partie, c'est parce que les Allemands partent plus tard à la retraite. Et donc, ça nous emmène aussi sur un des levier important, c'est d'arriver à faire un recul effectif de l'âge de départ à la retraite. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément passer par un recul de l'âge légal, ça peut passer par des incitations financières, surcote, décote, mais en tout cas, c'est probablement un levier indispensable et qui a un double avantage. D'une part, de baisser directement le nombre de retraités dans la dépense publique, et de l'autre, d'augmenter le PIB, parce que ça fait plus de gens qui sont en emploi, plus de gens qui produisent.
Alors Jean-Hervé Lorenzi, vous l'expliquez dans ce livre qui vient de paraître aux éditions Descartes Company, qui s'intitule « L'erreur de Faust, essai sur la société du vieillissement », un livre coécrit avec François-Xavier Albouy et Alain Villemeur. Le fil conducteur, c'est de dire que la société du vieillissement, c'est vraiment une société de rupture et il faut s'y intéresser dès aujourd'hui.
Complètement. Il faut bien comprendre que, pour prendre deux exemples, 20% des Français ont plus de 60 ans, une vingtaine. Et ils reçoivent, il faut le rappeler à tous les intervenants, environ 20% du PIB, soit en santé spécifique, soit en retraite.
Le PIB, 14%. On rappelle, c'est la richesse nationale produite par le pays.
Il y a 20% qui vont, et c'est très bien, c'est pas le sujet. Dans 10 ans, on sera 30%. 30%, ça veut dire qu'on mettra 30% du PIB dédié, passant des actifs ou des jeunes vers les vieux.
Bon, alors la société vieillit, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, et deuxième sujet, il faut bien voir que les équilibres politiques vont être déterminants, puisque à partir du moment où vous représentez le tiers, pas loin du tiers de la population, je parle dans une dizaine d'années, vous verrez le poids en réalité de ce que représente. Quand vous prenez le cas de l'Allemagne, on en a parlé, mais c'est évident que le poids politique de la génération vieillissante est déterminant. Pour ça qu'ils sont aussi susceptibles sur les problèmes d'épargne, de qualité, pas de risque, etc. Parce que c'est une société vieillissante. Donc c'est une vraie rupture qui concerne tous les domaines et on a un problème géant devant nous qui est celui
Et qu'on n'a jamais anticipé, qu'aucun gouvernement n'a véritablement anticipé.
Que l'histoire humaine n'a jamais connu. On n'a jamais connu une société, une pyramide des âges qui soit de cette nature. Et on n'a jamais... il faut qu'on anticipe tous les sujets, notamment celui de la dépendance, qui est vraisemblablement un sujet...
C'est le grand âge, comme on dit.
Le grand âge. Qui est vraisemblablement le sujet majeur pour l'économie française, la société française dans les années qui viennent.
Alors, Emmanuel Jessua, vous qui êtes un jeune économiste, cette société du vieillissement telle que l'a décrit Jean-Hervé Lorenzi, ça peut vraiment tourner au cauchemar pour l'économie?
En tout cas, ça peut effectivement occasionner des dépenses grandissantes. Donc financée par des prélèvements obligatoires aussi grandissants. C'est pour ça qu'il est d'autant plus nécessaire, par ailleurs, de trouver des économies. Et ce n'est pas que le sujet de la dépendance, c'est aussi que le fait que les gens devenant plus vieux sont plus susceptibles de développer des maladies chroniques, donc dont le traitement est plus coûteux. Et donc vous risquez effectivement d'avoir une espèce de course entre l'innovation médicale et puis le développement des pathologies intrinsèquement liées au vieillissement. Et donc ça, c'est... il faut absolument trouver des marges de manœuvre budgétaires pour
Ça veut dire qu'il faut que ce soit une priorité des gouvernements, du gouvernement.
Bien
sûr, c'est une sorte de plan Marshall de la vieillesse ou de la dépendance.
Vous attendez du concret d'Emmanuel Macron là, la semaine prochaine ?
On va avoir la réforme des retraites. Alors, c'est devenu très compliqué parce que chacun y met son grain de sel. Et on a d'un côté Jean-Paul Delevoye qui essaye désespérément de tenir le cap qu'on lui avait fixé. Certains essayent d'y coller l'allongement, le départ de la retraite plus tard, ce qui est un vrai sujet mais qui n'était pas prévu dans le plan Delevoye. D'autres rajoutent dans l'indépendance. C'est quand même très compliqué. Il faut mettre de l'ordre dans la réflexion. Et j'espère que la semaine prochaine, ce sera calmé et qu'on aura une vraie position sur les réformes des retraites.
Merci à vous trois. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Emmanuel Jessua, directeur général de l'Institut de conjoncture Execode. Emmanuel Cuny, à dimanche.